Mais ces belles phrases ne me rendront pas justice. En effet, il n'y a que les gestes qui comptent. Voici l'occasion pour vous d'en faire un beau. Sur le visage du prévôt, la colère avait fait place à une sorte d'accablement, comme tous les regards étaient tournés vers lui. Vous me jugez, mais pour vous c'est facile de jouer les grands seigneurs. Ce n'est pas votre fils qui est mort. Je n'ai jamais dit que cela serait facile pour vous, monsieur. J'ai dit que cela serait admirable. Je ne suis pas ici pour trouver la gloire, mais la justice. Andreas, comme à court d'arguments, marqua un temps de pause avant de lancer. Vous êtes de Béziers, monsieur, n'est-ce pas? Bien sûr. Vraiment? Comment cela, vraiment? S'énerva Ardignac. Je suis prévôt de Béziers, et mon père l'était avant moi, tout comme mon grand-père et son père avant lui. Les Ardignac sont une des plus vieilles et plus fières familles de Béziers. Alors, j'ai peine à comprendre que vous montriez tant d'entrain à vous substituer à la justice divine, monsieur. N'est-ce pas avant de massacrer vos ancêtres que le légat du pape cria ce célèbre « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens » Seriez-vous un Amalric d'aujourd'hui, prêt à rendre une justice aveugle et meurtrière à la place de Dieu? Le lecteur qui connaît bien maintenant l'irréligion d'Andreas sourira sans doute comme nous devant l'argumentation purement rhétorique de cet homme pour qui la justice divine était en réalité un concept inepte. Mais Ardignac, qui était de plus en plus incertain, adressa alors un regard aux deux gardes qui tenaient toujours la jeune fille à terre, et dans leurs yeux il dut lire la confirmation que sa clémence ne serait point regardée chez lui comme une faiblesse, mais bien comme une force. Car dans un soupir enfin, abaissant ses défenses, il leur ordonna de relâcher à Alice. « Rentrons, » dit-il. « Laissons cette diablesse affronter seule le jugement de Dieu, quand l'heure sera venue. Pour ma part, j'en ai fini avec elle. J'en ai fini avec tout ça. » Sans ajouter un mot de plus, il avisa durement Andreas, puis se fraya un chemin au milieu de l'assemblée, suivi par ses deux gardes et par les acclamations des bâillonnets. La poitrine soulevée par le soulagement, Andreas les regarda s'éloigner, puis il rejoignit la jeune fille, qui, assise par terre, la bouche en sang, tremblait encore de tout son long, alors qu'autour d'eux, comme le spectacle était fini, la foule se dispersait déjà sur le parvis du château. « Comment t'appelles-tu, petite idiote? Et que fais-tu vraiment ici ?» demanda l'apothicaire en l'attrapant fermement par-dessous l'épaule pour la relever. La jeune fille épousseta ses vêtements, frotta le sang sur ses lèvres, puis elle leva vers Andreas et Robin un regard rempli d'une triste gratitude. « Je m'appelle Alice, et je n'ai plus rien. » Livre 3. Où le lecteur trouvera enfin les réponses aux nombreux mystères qui lui ont été exposés, mais découvrira aussi que le sens même de cette histoire n'est peut-être pas celui que l'on croit. Chapitre 101. On vient, s'exclama celui des deux geôliers qui avait la tête collée contre la porte. Humbert lui fit aussitôt signe de se cacher. Après avoir vu l'apothicaire et son apprenti ressortir de l'auberge, le grand inquisiteur de France y avait pris une chambre lui aussi, puis s'était glissé dans la leur afin de les y attendre. Ainsi, il allait pouvoir les prendre à la nuit tombée et à l'abri des regards. Dans la pièce, ils avaient retrouvé, non sans une certaine satisfaction, celle de leurs affaires que Saint-Loup et le jeune homme leur avaient volées en prenant l'un de leurs chevaux. Il y avait dans ce chassé-croisé une certaine ironie dont Humbert se délectait, à présent qu'il était du bon côté du piège. Les pas dans le couloir approchèrent. Dehors, le soleil était en train de disparaître et le soir plongeait Bayonne dans une douce pénombre. Humbert, qui se tenait dans le fond de la chambre, regarda ces deux hommes lever leur épée, prêts à en découdre. En cet instant, il se souvint de l'humiliation qu'il avait essuyée en voyant s'échapper le jeune Robin Meissonnier de la commanderie Saint-Marc, et il jubila à l'idée de prendre sa revanche. Dans l'ombre, un sourire se dessina sur son visage. La porte s'ouvrit lentement. Et alors tout se passa en un battement de cils. Les deux silhouettes entrèrent dans la pièce, et aussitôt les geôliers leur tombèrent vitement.